Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Canal Académie. Une fois n'est pas coutume, je souhaiterais que l'émission Un jour dans l'histoire aborde les rivages de la bande dessinée et tout particulièrement de la bande dessinée historique. Nous l'avions fait une fois avec Patrice Pellerin et son fameux héros L'Épervier. Nous le referons avec la sortie du film de Spielberg, Tintin, en vous présentant quels sont les liens du monde de Hergé et de la véritable histoire. Mais aujourd'hui, je souhaiterais m'arrêter en Amérique du Nord, au début du 19e siècle, alors que l'Empire français n'a pas encore abouti et que les troupes du premier consul Bonaparte sont au camp de Boulogne, dans le nord de la France, ceci à la veille du soleil d'Austerlitz. À l'autre bout du monde, la Louisiane vient d'être cédée à la jeune nation américaine. Nous sommes dans un monde d'incertitudes, dans un monde de conflits, de guerres, et c'est dans ce monde que se situe l'intrigue de la bande dessinée Frenchman de Patrick Prugne. Patrick Prugne, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez donc de publié aux éditions Daniel Maguen, Frenchman. Ce n'est pas la première fois que vous publiez chez cette maison d'édition qui se trouve tout près de l'Institut de France. En effet, avec le scénariste Tiburce Auger, vous êtes aussi l'auteur de Canoë Bay, dont l'histoire d'ailleurs se situe sur le même continent, mais en une autre époque, même si, nous le disions avant cette émission, nous sommes dans un univers identique. Nous y reviendrons tout au long de l'émission. Alors généralement, après mon introduction, je présente toujours mon invité, mais cette fois, je vais laisser nos auditeurs vous découvrir au fond, au fil de cette émission, et notamment à travers cette première question. Comment, Patrick Prugne, devient-on dessinateur de bande dessinée ? Racontez-nous, si je puis dire, votre vocation.
Comment on devient dessinateur de BD ? On tombe dedans quand on est tout petit. Je crois que ça commence comme ça. Moi, je n'ai pas de souvenir de ne pas avoir dessiné. Je crois que déjà, c'est là le début. Ensuite, par des chemins un petit peu différents, un petit peu de fac, un peu de dessinateur en maison de pub, des choses comme ça, on vient petit à petit à la bande dessinée. Un jour, on signe un contrat parce que ça devait se faire, parce que c'était la logique.
C'est-à-dire que vous avez commencé en fait votre carrière de dessinateur en vendant vos services au monde de la communication et au monde de la publicité.
Oui, voilà. En fait, moi, j'étais graphiste dans une agence de com. Et j'ai toujours eu envie de faire de la bande dessinée. Donc c'était en attente. Mais je suis complètement autodidacte et il a fallu que j'attende que les portes s'ouvrent. Voilà. C'est le parcours de beaucoup, je pense.
Il y a toujours un déclic, un avant et un après. Pour vous, ce moment, ça a été quoi ?
Alors le déclic, je dirais, voulait dire dans mes choix ou dans le fait de faire vraiment de la bande dessinée.
Oui.
Et je pense que le déclic, ça a été d'avoir un prix à Angoulême en 91, ce qu'on appelait le prix Avenir à l'époque,
oui,
qui s'adressait à des jeunes auteurs n'ayant pas encore été publiés.
D'accord.
Et je crois que là, voilà, ça a été le, on va dire, pas le déclic, c'est pas ce qui m'a, j'aurais quand même fait de la BD, je pense, mais voilà, ça m'a ouvert quelques portes, voilà, ça devenait un peu plus sérieux.
Et vous avez reçu ce prix pour ?
Alors, pour une parodie du Lièvre et de la Tortue, une histoire en trois planches, dont je ne sais pas où sont les originaux, j'aimerais bien les retrouver.
C'est un appel au possesseur.
Non, alors, c'est moi le possesseur, mais je ne sais pas où ils sont.
Ah, donc il y a du travail à la maison.
Ah oui, il y a du travail à faire à la maison.
Alors, vous commencez dans le monde de la bande dessinée et tout particulièrement dans le monde de l'humour. C'est Nelson et Trafalgar. Alors, vous êtes dessinateur, mais vous ne scénarisez pas encore.
Tout à fait. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui est devenu un ami par la suite, Jackie Goupil, qui m'a proposé un scénario, donc Nelson Trafalgar, l'histoire d'un chien et d'un chat. Le chat s'appelant Nelson et le chien Trafalgar, deux frères ennemis. Et on a bien rigolé sur cette série, on s'est bien amusé. Voilà, c'était bon. Si je les reprends maintenant, je me dis, bon, je ne sais pas ce que ça donnerait tout de suite chez un éditeur, graphiquement, je parle. Après, bon, c'est des erreurs de jeunesse, je pense. Je commençais, quoi.
Oui, c'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que ce moment, est-ce qu'à la suite du prix, au fond, vous avez de grandes illusions où on vous impose tout de suite une forme de musique, un scénariste, etc.
En fait, moi, en l'occurrence, d'avoir un prix, j'ai cru que j'étais bon. Je me suis aperçu totalement mauvais. C'est-à-dire qu'après, je me suis mis à jouer un peu dans la cour des grands et j'ai compris qu'il fallait vraiment que je me mette à travailler. Que la bande dessinée, ce n'était pas simplement faire des planches le samedi soir, et un petit peu le lundi matin, et puis peut-être si on a le temps un peu le mercredi après-midi. Non, non, c'est vraiment un travail assez rigoureux, plaisant, hein, très très plaisant. Mais bon, voilà, ça, moi, ça m'a permis de passer ce palier-là et de vraiment travailler.
Donc nous sommes avec Nelson et Trafalgar dans le registre de l'humour. Est-ce que c'est une époque malgré tout où vous avez, je me souviens de Patrice Pellerin qui décrivait sa volonté de copier, il recopiait systématiquement des dessins qu'il voyait ou bien des images qu'il voyait. Vous, est-ce que vous aviez une idée, vous pensiez à des univers ou au contraire vous vous êtes laissé guider?
C'est-à-dire, à l'époque, tous les projets que j'envoyais aux maisons d'édition, c'était toujours de l'animalier. J'aime, et j'aime encore beaucoup, l'animalier. Je pense qu'on peut avoir des sensations avec l'animalier superbes, quoi. On peut transcender la réalité, c'est magnifique. Par contre, bon, j'étais pas prêt pour faire un scénario, et de tomber sur un scénariste qui avait déjà travaillé pour d'autres scénarios, ça m'a beaucoup aidé, oui, c'est sûr. Comme Patrice Pellerin, j'ai aussi beaucoup recopié de dessins. Oui. Étant jeune, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup recopié. Oui, 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 oui. Et je pense que bon, bah, c'est le côté académique, mais ça laisse des traces.
Ouais,
ça laisse
des traces. Ouais, ouais. C'est une sorte de passage obligé.
Je sais pas. Peut-être que certains s'en passent. Moi, je sais que j'aurais difficilement pu m'en passer. Ouais, ouais, ouais.
Alors, je m'arrête un peu sur la technique, nous y reviendrons plus largement tout à l'heure, mais vous l'évoquez, donc je m'arrête dessus. Il existe un monde entre cet univers humoristique enfantin, et donc l'univers de Nelson et Trafalgar, et l'univers que vous décrivez dans Canoë Bay et dans Frenchman. Est-ce que dessiner des animaux avec des expressions humaines est différent que dessiner les hommes ?
On peut aller plus loin dans les animaux. En plus, si vous prenez, je ne sais pas, un méchant, dans une bande dessinée réaliste. Vous prenez un méchant, vous allez essayer de lui trouver une tête de méchant. Dans l'animalier, vous prenez un vieux corbeau déplumé, c'est bon, c'est un méchant. Voilà, c'est très, très caricatural. Oui. Et c'est ça que j'aimais beaucoup dans l'animalier. Bon, mais après, ce qui m'a manqué, je pense que j'avais envie d'aller vers quelque chose, inconsciemment, j'avais envie d'aller vers de l'historique. Mais le problème, c'est que j'étais pas prêt au sens graphique. Et peut-être que j'avais pas assez amassé de culture historique ou je ne sais quoi, mais j'avais aussi envie de ça. Donc, bon, il faut faire un choix, on peut pas tout faire.
Ouais. Alors, après Nelson et Trafalgar, vous vous retrouvez dans un tout autre univers qui est celui de Folle. Alors, je n'ai pas eu la chance de les avoir entre les mains, mais c'est un monde, là encore, complètement différent, qui est celui de l'heroic fantasy.
Non, c'est pas celui de l'heroic fantasy proprement dit, c'est plutôt l'univers des contes. On est plus dans le petit conte scandinave, c'est plus léger, c'est plus jeunesse, plus...
Il y a mais moins c'est de science-fiction. Ouais, ouais.
Voilà, mais c'est pas vraiment de l'heroic fantasy à proprement parler. Mais bon, je me suis bien fait plaisir aussi, je me suis bien amusé sur ces deux albums.
Il y a en 2004, hein, je saute plusieurs années, en 2004, quand vous publiez L'Auberge, il y a une réellement... On a l'impression que vous avez trouvé, que vous commencez à rentrer dans cet univers qui va être transcendé, de mon point de vue, par Canoë Bay et Frenchman.
Oui, effectivement. Et on me l'a souvent dit, mais je crois que ça, c'est le passage de, on va dire, de la bande dessinée académique avec le trait couleur par-dessus, soit en ordinateur, soit sur bleu, à la couleur directe, c'est-à-dire à la couleur directement sur l'original. Et j'ai mis du temps à trouver cette technique, à l'apprécier vraiment, à l'optimiser, ce qui fait que ça m'a pris beaucoup de temps et je n'aurais pas pu le faire avant. Et si vous prenez les derniers albums, en l'occurrence Frenchman et le premier de l'Auberge du bout du monde, il y a un monde dans la couleur, dans le traité, voilà, il faut laisser le temps au temps. Mais c'est la couleur directe qui m'amène en fait... la possibilité de donner une autre dimension à ce que j'ai envie de raconter.
Vous entrez dans une forme de consécration, parce que, encore une fois, on trouve votre travail beaucoup plus abouti. Là, vous sortez de l'humour, vous sortez de... Là, vous êtes dans une histoire, dans une intrigue. On est plus dans quelque chose de classique dans le monde de la bande dessinée.
Alors, on est dans quelque chose de classique, mais en fait, que ce soit dans Canoë Bay ou dans Frenchman, bon, là, en l'occurrence, Frenchman, je l'ai réalisé seul, et Canoë Bay avec Tiburcio G au scénario, mais... En fait, c'est un condensé, un concentré de mes lectures. J'aime beaucoup l'histoire et principalement, j'ai beaucoup lu de choses sur toute cette colonisation depuis le 15-16e siècle de l'Amérique du Nord jusqu'à la fin, jusqu'à Woodinney en, je ne sais plus, 1800, 80, je crois.
On reviendra sur cette idée, mais c'est vrai que vous parliez des contes à travers l'auberge du bout du monde. Et bon, Jack fait un peu personnage de conte. On pense à Peter Pan, non pas le personnage Peter Pan, mais le fait qu'il soit orphelin, qu'il soit un jeune garçon.
Oui, alors ça, bon là, c'est Tiburce Dan qui a écrit l'histoire, mais on en a longuement discuté. Et je pense que c'est toujours sur des destins tragiques qu'on bâtit des belles histoires.
Oui.
Il faut de toute façon un moment qu'il y ait un déclic tragique pour amener des personnages qui sont complètement insignifiants dans, on va dire, la grande histoire. La grande histoire est en toile de fond, ils sont là, c'est des destins, un parmi tant d'autres. Mais pour amener ce gamin, ce petit Acadien, dans les terres du Nord de l'Amérique du Nord, il fallait qu'il y ait une raison, il fallait qu'il y ait quelque chose d'assez fort quand même.
Oui. On n'a pas évoqué, avant de passer aux techniques, on n'a pas évoqué vos influences et vos maîtres. Est-ce que quand on est jeune, donc quand vous travaillez sur Nelson, Trafalgar, etc., avant que vous trouviez cette identité, que l'on peut voir dans l'auberge du bout du monde, qui est davantage accomplie dans Canoë Bay et dans Frenchman, est-ce que vous pensez à certains maîtres quand vous travaillez ?
Je pense de moins en moins, mais ça me l'a beaucoup fait. Bon, maintenant, il faut essayer un petit peu de se laver de tout ça, de se débarrasser un petit peu de cette peau, mais évidemment, mais moi j'étais une éponge, hein. Je prenais tout ce qui passait, ça allait de Lelon qui dessinait Carmen Crue dans Fluide, en passant par André Juillard, des gens comme Druillet, des gens, je prenais tous ces styles différents, je lisais des comics, là, des comics italiens, les Blake LeRoc, les Kid Carson, les choses comme tout, j'étais vraiment, et plus ça va, alors bon, j'ai encore des maîtres au sens de des gens comme Pratt, Manara, Juillard encore, Régis Loisel, des gens comme ça, pour moi, sont des virtuoses. Évidemment, et j'en oublie certainement, hein, des gens comme Emmanuel Lepage, des gens comme Michel Plessis, dans son domaine, qui... Enfin, oui, mais évidemment, il y a énormément de gens dont j'admire le travail.
Alors, Patrice Prune, nous nous retrouvons dans une poignée de secondes.
Environnement, développement durable, énergie verte... Canal Académie vous propose des émissions sur ces thèmes en compagnie d'académiciens des sciences, mais aussi avec des économistes et des historiens. Que ferons-nous sans pétrole ? Comment stopper les augmentations d'émissions de gaz à effet de serre ? Le nucléaire est-il la solution au réchauffement climatique ? Quelle gestion économique de l'eau douce dans les années à venir ? Faites le point sur ces questions en téléchargeant nos émissions sur canalacademie.com.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, je reçois, une fois n'est pas coutume, un auteur de bande dessinée, un dessinateur et un scénariste, Patrick Prune. Vous êtes l'auteur, tout dernièrement, de Frenchman, donc une bande dessinée parue chez Daniel Maguen, éditeur. Alors, nous avons évoqué un peu votre parcours. Je voudrais me lancer dans la technique de la bande dessinée, car au fond, elle est peu connue. Et c'est ce qui fait, en tous les cas, quand on regarde votre travail, c'est ce qui me fait dire que c'est un art à part entière, tant vos planches sont magnifiques. Il y a une recherche, avant tout. Vous faites beaucoup de croquis avant de vous lancer dans la découpe des différentes cases de votre histoire ?
Oui, je fais beaucoup de croquis parce que, en même temps, je fais beaucoup de croquis, mais c'est passionnant de faire des croquis. C'est peut-être la meilleure partie du travail d'un dessinateur, c'est-à-dire de donner vie à une action, un enchaînement d'actions. Et ça, j'adore ça. Après, il faut faire un choix. Alors, des fois, on ne fait pas plusieurs croquis pour une case, mais il m'est arrivé de faire 4, 5, 6 croquis pour une case, qui est vraiment très très importante et où l'enchaînement est très important. Et il ne faut pas oublier que la couleur directe, je vais mettre de l'aquarelle sur mon dessin. Donc si mon dessin au départ n'est pas celui que je veux, je ne le rattraperai pas à la couleur. Et à l'aquarelle, c'est quand même du boulot et on fait un peu attention avant de commencer à poser le pinceau.
Est-ce qu'il y a une part de recherche historique ? Bon, les personnages, vous les imaginez en fonction de l'histoire, mais tous les instruments, les bateaux, les armes, etc. Il y a un travail de recherche historique ?
Ah oui, c'est évident. Mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je fais de la bande dessinée historique. C'est parce que j'aime faire des recherches. Le problème avec les recherches, c'est qu'on n'a jamais fini. Donc il faut arriver à un moment où se dire, bon, je vais commencer l'album. Tant pis, je ne sais peut-être pas quel bouton de guêtre a ce monsieur, mais il faut quand même que j'arrête. Mais c'est ça qui est intéressant. Et ça se loge partout. C'est un uniforme, c'est un drapeau, c'est un fusil. Un Anglais n'a pas... On va dire pendant, par exemple, la guerre de 7 ans, les Anglais n'ont pas les mêmes fusils que les Français, enfin, ainsi de suite. Tout est là. Et quel régiment était à cette époque-là ? Si on gratte un peu, on va essayer de ne pas faire d'impair. Alors, je ne veux pas dire, on ne va pas me couper la tête si jamais je fais un impair. J'ai fait des erreurs, sûrement. Il y a des erreurs. Il y en a probablement, c'est évident. Mais c'est intéressant d'arriver à rendre le récit le plus crédible possible. Sinon, quel intérêt ? Quel intérêt ?
Vous êtes bien dans l'émission Un jour dans l'histoire. Donc vous avez ce travail de recherche historique et c'est ce qui fait aussi la richesse de cette bande dessinée. Alors vous vous distinguez par l'utilisation, nous l'avons dit, de l'aquarelle. Peut-être quelle différence entre le dessin, par exemple la ligne claire qui est très connue dans le monde de la bande dessinée et la plus populaire, et l'aquarelle? Vous allez me dire tout.
Non, je ne vais pas vous dire tout justement. Je pense qu'on peut faire de la ligne claire et utiliser l'aquarelle pour faire la mise en couleur. Après, c'est qu'une question.
C'est-à-dire que d'abord, vous croquez?
D'abord, je croque. La différence, c'est-à-dire que moi, je n'encre pas mes dessins. Les étapes classiques d'un dessinateur, c'est crayonné, ancrage, couleur. Moi, je fais mon crayonné, je mets ma couleur. Mais quand je dis je mets ma couleur, c'est-à-dire que je crée une ambiance et après je rehausse, ce qu'on appelle je rehausse avec des lumières, je rajoute du trait d'ailleurs. Mais le cheminement est un peu différent. C'est une technique qui m'a apporté, ça me permet de créer mes ambiances que je ne pourrais pas faire avec une ligne claire et simplement des aplats de couleurs. Voilà, c'est... En fait, c'est un moyen la couleur directe. Moi, pour moi, je me suis mis à l'aquarelle, c'était un moyen, c'était rendre ce que j'imaginais. Voilà, un port au XVIIIe siècle, avec les vieux gréements, les mouettes. Il me fallait la musique du film. Et c'est l'aquarelle qui me l'a amené, quoi.
Est-ce que c'est une technique très répandue, l'aquarelle, dans le monde de la bande dessinée? À l'heure où, justement, les ordinateurs sont bel et bien là et que certains ne travaillent qu'avec ordinateur.
Bien sûr, non mais évidemment, il est évident que l'aquarelle est moins répandue que l'ordinateur. Mais aussi, tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que ça demande quand même beaucoup plus de temps et le droit à l'erreur est impardonnable. Une planche où on s'aperçoit que la couleur ne va pas, c'est bon, ça va pas, il y a des mariages de couleurs qui ne vont pas. On n'a pas une palette graphique pour dire bon bah, je vais transformer, je vais mettre un peu plus de jaune, un peu plus de rouge.
Ouais.
Ben non, c'est un coup de marqueur au milieu et on recommence. Hein.
Quand vous dites on recommence, c'est-à-dire quand vous avez une pleine page avec 5 images,
ah ben
si
non,
vous ratez une
si
image,
une, non, c'est, voilà. Voilà. Je découpe au cutter, non, évidemment.
D'accord.
Mais je veux dire sur l'ensemble, si on a quelque chose qui ne va pas dans les combinaisons, dans le découpage, on est obligé de refaire. Mais un dessinateur qui travaille avec une tablette graphique, il ne va pas recommencer son dessin. Il va enlever ses couleurs, il va recommencer son dessin. Il va mettre beaucoup moins de temps. Moi, le dessin et la couleur sont indissociables. Une fois que j'ai fini ma planche, ma case, c'est fini. Je ne peux pas retirer ma couleur, refaire mon dessin et après rejouer avec ma couleur sur mes palettes graphiques. C'est fini.
Ouais. Vous dites, est-ce qu'il est difficile de trouver l'image juste?
Oui, mon général.
Oui, et ce qui m'étonne, en fait, c'est que nos auditeurs ne peuvent pas le voir, mais à la fin de Canoë Bay et à la fin de Frenchman, il y a tout un carnet dans lequel vous mettez... donc, on retrouve plusieurs des images qui sont travaillées, notamment comment tous les ustensiles qui sont un peu présentés. Là, je vois un piège pour un rat musqué, un piège à castor, tout ça. C'est le fruit de recherches historiques, les uniformes, les armes, etc. Donc, il y a ces objets à chaque fois à côté. Et à côté des images, il y a des commentaires. Et on a l'impression, à vous lire, que parfois, vous... Je ne vais pas dire que vous n'arrivez pas à aboutir, mais vous cherchez le mieux. Or, le mieux est l'ennemi du bien. À un moment, vous dites quelque chose m'échappe, mais quoi? C'est un moment régulier, le tâtonnement, les tentatives. On a l'impression qu'on tâtonne davantage à l'aquarelle que dans un dessin peut-être plus classique.
Je ne sais pas si on tâtonne davantage. Il se trouve que moi, je tâtonne. Oui, des fois, il m'arrive souvent de ne pas être content d'une... Je pense, le temps passant, je pense que l'erreur n'est jamais où on regarde. Elle est toujours à côté. J'ai compris ça il n'y a pas très très longtemps. On s'échine à regarder un visage ou une position ou un cadrage, mais l'erreur, elle n'est pas là. En fait, l'erreur, elle vient peut-être des fois de la case d'à côté, elle vient des fois de la case suivante, ou elle vient de la couleur, ou elle vient... Voilà. Non, c'est pas facile, on est toujours... C'est logique, on est toujours un peu dans le doute. Vous refaites, si je refais demain le même album, je vais le refaire différemment.
Différemment,
oui. Évidemment, je vais le refaire encore différemment. C'est sans fin. Et pour en revenir au croquis préparatoire, c'est-à-dire que quand vous lisez, vous travaillez un album, il y a une grosse, grosse partie avant de recherche de documentation.
Oui.
Toute cette recherche de documentation, elle figure très, très rarement dans un album. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un éditeur
qui
me dit,
travail, oui.
Voilà, c'est dommage, toutes ces recherches, on pourrait quand même les utiliser, c'est dommage de ne pas en faire profiter le lecteur. D'où les cahiers supplémentaires.
Oui, les auditeurs s'en apercevront en se procurant donc Frenchman. Ils verront à la fin ces cahiers qui sont des cahiers de croquis. Et à côté de chacun de ces croquis, vous mettez des commentaires qui sont à la fois des commentaires qui présentent ces différents dessins. Donc là, je vois Pony, du nom indien Pariki, qui veut dire corne en référence à leur façon de se coiffer les cheveux en forme de corne. Et en fait, tous ces dessins participent de cette ambiance historique dont, et c'est peut-être frustrant, dont le lecteur ne se rend pas compte, il ne se rend pas compte de tout ce travail.
Je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais moi je voudrais citer juste, bon, c'est sans prétention, je ne veux pas me comparer à Louis, loin de là, mais je voudrais citer juste Hugo Pratt, qui justement c'était le même genre de question. Il disait, bon, on me demande de dessiner un Mohawk au bord d'une forêt. Je dessine un Mohawk, c'est un Iroquois, un Mohawk, c'est la tribu des Iroquois. Un Mohawk au bord d'une forêt. Mais pour dessiner un Mohawk au bord d'une forêt, j'ai lu beaucoup de livres sur les Mohawks, je sais comment je vais le dessiner, j'ai lu beaucoup de livres sur les forêts qui entourent où habitaient les Mohawks, j'essaie de voir à quelle époque je vais le situer. C'est-à-dire qu'en fait, pour dessiner tout simplement un Indien au bord d'une forêt ou à l'orée d'une forêt, il y a des tonnes de recherches. Alors, si c'est bien fait, le but, c'est que le lecteur ne s'en rende pas compte. C'est ça qui est chouette. C'est-à-dire qu'il faut amener l'auteur à être pris par l'histoire et après à la reprendre, peut-être à se dire, ah, tiens, et peut-être à l'amener à se renseigner sur certaines choses. Mais le but, c'est justement de ne pas faire de grosses bourdes pour que le lecteur y croit vraiment.
Et alors, je rebondirai sur ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au fond, c'est comme un travail d'historien. J'ai une formation d'historien. On constate les faits, etc. On les présente. Mais il y a une manière de les présenter et de les écrire. L'écrivain présente un texte, présente les choses. Vous, vous dessinez. Et l'image ne ment pas. L'image ne ment pas. Et je crois que le plus difficile, et c'est encore une fois ce qui fait la qualité de votre travail, c'est que vous arrivez à retraduire plus qu'une ambiance, une émotion. C'est le plus difficile de retraduire cette émotion.
L'émotion, elle vient justement par le jeu des ambiances et de la couleur. Je pense qu'elle se situe là. C'est pour ça que j'ai travaillé dans ce sens-là. Et l'émotion, elle passe peut-être. Ça, c'est pas à moi de le dire. Elle passe peut-être parce que j'essaie, par exemple, dans Frenchman, c'est en fait tout ce qui m'imbibe, en fait. Tout ce qui m'imbibe ressort dans ce genre d'album. J'aime beaucoup lire des choses là-dessus, des biographies, des choses. Enfin, ça ressort là-dedans. Mmh. Et donc, il n'y a pas de miracle à la fin. C'est oui, bon, mais je sais que telle tribu habitait là, et ainsi de suite. Je connais des choses qui sont presque évidentes pour moi après à dessiner. Et après, je vais gratter un peu plus, On me dit oui, c'est très documenté. Oui, mais ça n'a pas été un cauchemar ni une corvée. Voilà, ça n'a pas été une contrainte.
Il y a une anecdote que vous racontez pour Canoë B, c'est que vous aviez imaginé avec vos conversations avec Tiburce Auger, donc le scénariste, Jack, donc le héros. Et quand vous recevez le scénario de Tiburce Auger, il ne correspondait pas du tout à ce que vous aviez imaginé. Au fond, c'est là où on sent cette émotion. Et bon, Jack, il a vraiment une personnalité D'accord. Qui crève, on dirait au cinéma, qui crève l'écran. Là, il crève les cases de bande dessinée.
Et ben alors, là, vous avez mis le doigt sur quelque chose de vraiment vrai, parce que quand j'ai reçu le scénario, j'avais commencé à faire des travaux préparatoires, des recherches des personnages principaux, dont le petit Jack. Et je me suis aperçu à lire les dialogues que ce que j'avais dessiné ne correspondait pas du tout à la physionomie que je lui avais donnée. Et parce que je ne sais pas, les mêmes bulles dans sa bouche ne seraient pas allées. Et je l'ai refait lui, Lucky Roberts aussi n'était pas tout à fait comme ça. Je ne les sentais plus. Je sentais plus ce que j'avais commencé à faire. Ça ne collait plus avec le scénario de Tiburce, donc j'ai recommencé.
L'approche, la peur, l'inquiétude, ce sont des idées, des ambiances que vous décrivez et que vous décrivez admirablement bien par vos dessins. Donc chaque cadrage, au fond, vous devez dégager quelque chose. Et vous disiez à mon confrère d'un monde de bulles, quand je pense une case, je la pense en couleur, mais il faut la penser en cadrage. Et encore une fois, c'est ce qu'il y a de beau et c'est ce qu'il y a de magnifique, parce que tant la technique de l'aquarelle est difficile, c'est-à-dire qu'on a envie de... vous décrivez des grands espaces, des forêts, vous décrivez des plaines, vous décrivez les États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui, en tous les cas, tels que beaucoup de parties sont encore aujourd'hui, avec ces formidables élans de nature, mais vous êtes limité à une case. Oui. C'est une chose difficile.
Voilà. C'est très frustrant. C'est très frustrant, mais bon, on est obligé de faire avec. Alors après, on arrive à ce que vous disiez tout à l'heure, on arrive sur le cadrage. C'est grâce au cadrage que vous allez donner les notions d'espace. Mmh. C'est-à-dire, après, bon, c'est tout un jeu de technique, de plongée, de contre-plongée, de plan éloigné. C'est, voilà, de pas travailler plein champ tout le temps, de varier. Et voilà, c'est comme ça qu'on va essayer d'écarter un petit peu les... De toute façon, je ne travaille jamais sur la case. Je travaille à part et je reprends à la table lumineuse mon dessin. Sinon, je suis complètement bloqué. Je ne peux pas travailler dans une petite case.
Une table lumineuse, c'est-à-dire pour nos auditeurs.
Oui, pardon. Je fais mon dessin sur une feuille volante, une feuille de dessin. Je la mets sur ma table lumineuse, c'est-à-dire c'est une table avec une vitre opaque qui éclaire, c'est le principe du calque, et je le décalque par transparence sur la case définitive. Mais ça me permet d'avoir du champ, mes personnages ont du champ, et après je les positionne exactement où je veux dans la case. Sinon je suis cloisonné, je ne peux pas travailler.
Ne jamais perdre de vue qu'un dessin est aussi au service d'une histoire, c'est ce que vous avez dit également.
Ah oui, également. Donc, je le pense profondément, oui, c'est sûr.
Vous utilisez aussi une technique qui est assez intéressante, c'est l'argile. Pour mieux représenter l'espace, vous faites des personnages en argile.
Oui, en fait, j'aime beaucoup faire du modelage. Donc, je pense que pour me donner bonne conscience, je me suis dit un jour, je vais faire mes personnages de BD. Comme ça, si vous voulez, quand vous avez quand même pas mal de boulot, c'est une montagne, quand même, un album de 116 pages en couleur directe.
C'est combien d'années
de travail ?
Et des
fois, j'ai des coups de paresse. Bon, on va compter deux petites années de travail, un an et demi, entre un an et demi et deux ans.
D'accord.
Entre un an et demi, on va dire, un an et demi et deux ans. Et donc, des fois, j'ai des petits côtés paresseux, et comme j'ai envie de faire du modelage, j'en profite pour faire mes personnages. Voilà. Mais certains m'ont servi en 3D, Surtout pour les tricornes. Après, bon, je les ai plus tenus, on va dire. Mais au début, ouais, c'était pas facile. C'est vraiment... Je me suis aperçu que c'est vraiment très, très con à dessiner un tricorne sur une tête.
Dans le Canoë Bay, vous dites, dans un commentaire justement du cahier de croquis en fin d'ouvrage, vous dites le bateau et le chagrin du dessinateur. C'est si difficile que ça.
Ah oui, oui. Il faudrait poser la question à Patrice Pellerin. Je pense qu'il est passionné par les bateaux, d'ailleurs.
Oui.
Mais c'est sûr.
Il n'y a pas beaucoup de dessinateurs de bateaux. Il y a Bourgeon.
Mais ce sont des fondus de bateau. Patrice Pellerin est un fondu de bateau. Mais c'est le casse-tête permanent. C'est incroyable. Hein. C'est des cordages partout, des lignes de fuite partout. Enfin, c'est titanesque. Hein. C'est titanesque.
Patrick Pring, nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée donc à la bande dessinée. Je reçois Patrick Prugne, auteur, scénariste et dessinateur donc de Frenchman, qui vient d'être publié chez Daniel Maguen, éditeur. Alors, venons-en à l'histoire. Canoë Bay, c'est l'histoire d'un jeune garçon, Jack, qui était un orphelin, nous l'avons évoqué. Je pense à Peter Pan et au monde du conte, et même, j'allais dire, à Loisel. Plus particulièrement à Loisel, je trouve que Jack a un peu des petits airs de certains personnages de Loisel. Alors, il est placé comme mousse dans la marine britannique contre son gré, et il commence pour lui une aventure qui se poursuit chez les Indiens. Et Frenchman, Canoë Bay se passe en 1756,
oui, la guerre de 7 ans. Oui, c'est la guerre de 7 ans, ce qu'on appelait la... The French and Indian Wars, enfin la guerre franco-indienne.
Mais une délocalisation de la guerre de 7 ans, parce qu'effectivement, elle se passe en Amérique du Nord. Voilà. Là, nous sommes toujours en Amérique du Nord, mais l'univers évolue peu finalement, mais nous sommes en 1803. Pourquoi avoir choisi cette époque ? Parce que finalement, se dire 1803, premier consul, Talleyrand, vous le dites, d'ailleurs, un de vos personnages le dit, Talleyrand envoie des troupes là-bas pour plaire à la jeune nation américaine.
Pas pour plaire, mais en fait, voilà. L'idée de base, c'était... Bon, j'avais lu pas mal de bouquins sur la Louisiane, et la Louisiane, ce qu'on en connaît, ce qu'on... Bon, nous, la Louisiane, c'est le jazz, c'est la Nouvelle-Orléans, et ça fait peu de temps, ça. La Louisiane a toujours été très, très infiltrée par les Français. On est là-bas, mais on est chez nous, là-bas, quoi. Enfin, je ne veux pas faire du...
Du francophile.
Oui, voilà. Non, ce n'est pas ça du tout. Mais depuis Joliette et Marquette, Cavalier de la Salle, on a toujours été là-bas. Et j'ai trouvé une fin tragique à cette Louisiane qui s'est vendue comme ça parce qu'on avait en France un dictateur qui avait besoin d'argent pour faire ses guerres. Et puis, de toute façon, un territoire aussi vaste, il n'avait plus envie d'en entendre parler. Je crois que c'était un poids financier, c'était un gouffre. Voilà, et ça m'a plu. Et sachant qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artisans, de fermiers, de colons qui commençaient à arriver là-bas, et de plus en plus. Il y a eu des déportés acadiens, il y a eu... Donc, je pense que ça valait le coup de s'intéresser à cette région. Il y avait les Indiens, ce qui me tient quand même pas mal à cœur. Et puis, il y avait ce côté, on va dire, début 19e, avec ce Napoléon qui allait enflammer l'Europe et le monde, quoi.
Vous êtes malgré tout fasciné, il y a ce contexte historique, mais vous êtes fasciné par cette nature américaine ?
Je ne suis pas fasciné par la nature américaine, je suis fasciné par l'histoire de ces gens qui sont partis dans ce qu'ils appelaient le Nouveau Monde. Je suis fasciné par une forme d'histoire française au Nouveau Monde.
Alors, il y a entre Canoë Bay et Frenchman des petits clins d'œil et des similarités qui, j'allais dire, me touchent moi personnellement. Il y a notamment alors Toussaint, qui est un des héros dans Frenchman, qui fait figure de protecteur d'Alban. Et dans Canoë Bay, donc avant, il y a Roberts et Jack, il y a une même relation.
Alors, la seule différence, c'est que Toussaint Charbonneau a réellement existé. Toussaint Charbonneau était un trappeur qui a été plus connu, si l'histoire a retenu son nom, c'est plus grâce à sa femme qui s'appelait Sacagawea, qui est apparemment la femme qui a le plus de statut d'elle aux États-Unis. Ils ont fait partie tous les deux en tant qu'interprètes de l'expédition Lewis et Clark. Ils sont partis de Saint-Louis, ils ont remonté tout le Missouri jusqu'à l'océan Pacifique et retour. Et j'ai lu pas mal de choses sur cet homme. Je me suis dit, ça correspond, ça, il me le faut. Voilà, c'est.
Vous avez c'est voulu le représenter.
Ouais, je trouve que faire rencontrer l'histoire fictive avec des personnes ayant existé, je trouve ça. C'est un petit défi que j'aime bien. Il faut que ça colle. Hein.
Ouais.
Mais j'aime bien.
Ouais. Alors, les deux personnages aussi sont en dehors, je l'ai noté, de l'armée régulière. Bon, en fait, ce sont des héros très, très classiques. Hein. Nous sommes dans un monde. À la fois dans Canoë Bay de pirates, mais aussi un monde d'indiens, d'aventures, de découvertes. Je ne vais pas dire de découvertes de l'Ouest, mais...
Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Bah, dans Canoë Bay, il y a ce côté, ce mélange des genres, un peu, on va dire, de la piraterie, qui à l'époque était quand même beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été le siècle précédent. On a un petit peu ce côté piraterie, ce côté conflit anglo-français, indien. Et mélanger tout ça, il y avait quelque chose de... En l'occurrence, c'est Tiburce qui a écrit l'histoire, mais il y avait quelque chose de bien, de sympa à faire. Si on ne fait pas d'anachronisme, on peut mélanger, faire rencontrer certains petits pans de l'histoire.
Hein. Je vais m'arrêter quelques instants parce que sur une idée qui m'est chère, il existe en fait, dans votre travail, un lien de parenté, sans vouloir philosopher, avec un cinéaste. Et quel cinéaste ? C'est quand je lis Canoë Bay et Frenchman, en fait, je pense à Terrence Malick, que vous devez connaître, donc qui montre justement dans toute sa filmographie, il y a le Nouveau Monde, qui est l'histoire vraie de Pocahontas, mais au-delà, dans toute son œuvre, Terrence Malick montre une image de la nature, sa quiétude, sa force, sa grandeur, et l'homme, il le regarde d'un certain aspect, non pas comme un intrus, c'est un personnage qui peut violer cette quiétude. Vraiment, cette image de Terrence Malick, c'est une chose qu'on vous a déjà dit
ou... Non, c'est la première fois. C'est la première fois, mais j'ai le souvenir, un souvenir très fort, que j'ai vu plusieurs fois d'ailleurs, du Nouveau Monde de Terrence Malick. C'est, pour moi, c'est... J'ai des souvenirs de l'apparition des premiers Indiens dans les hautes herbes. Mon rêve, c'est de rendre ça en BD, hein.
Ouais, franchement.
Bon, là, dans le Nouveau Monde de Terrence Malick, on est en 1600 et des brouettes. Hein. On est beaucoup plus...
Plus tôt.
Mais c'est pas grave. C'est à la limite, c'est plus, oui, ce que vous disiez un petit peu, cette espèce d'immersion dans une nouvelle terre. Voilà.
Il y a une immersion, mais...
C'est noble.
Oui.
Le côté noblesse dans l'approche.
Alors, il y a une noblesse, mais le cinéma de Terrence Malick se distingue aussi par le fait qu'à un moment, le temps est suspendu, qu'il y ait une vision de la nature qui est une vision calme, une quiétude extraordinaire. Et moi, personnellement, c'est ce que je trouve, notamment, j'ouvre au hasard de Frenchman, j'ouvre où on voit deux loups qui sont dans la nature, on imagine les personnages derrière, mais justement, les personnages sont derrière, ils ne sont pas devant, il y a d'abord cette nature.
Oui, et peut-être que pour aller plus loin, je ne sais pas si vous avez souvenir de la musique, par exemple, du Nouveau Monde, qui joue peut-être que sur quatre notes, qui est magnifique, lancinante, et ben, c'est peut-être ce qu'amène l'aquarelle dans une bande dessinée, une forme de musique, quelque chose d'assez contemplatif. Et qui apporte beaucoup.
Mais écoutez, Patrick Prune, c'est sur ces mots que nous allons nous quitter. Hein. C'est tout à fait cela, grâce à cette technique que je trouve magnifique. Et je ne peux que recommander la lecture donc, de Frenchman et de Canoë Bay, qui vient d'être réédité donc, chez Daniel Maguen, éditeur. Merci beaucoup.
Merci, c'est moi.
Merci pour votre passion et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.